France Inter.
Bonjour la Terre au Carré, c'est Séverine de Paris. Je laisse un message suite à l'émission sur le béton, pour laquelle je vous remercie. Je voulais dire qu'il était important que nous apportions tout notre soutien aux militants qui ont été interpellés suite à l'action contre Lafarge, entreprise écocidaire. Donc, total soutien aux militants courageux qui ont été très malmenés par la police qui réprime de plus en plus nos luttes. Merci à tous pour votre soutien. Merci pour l'émission. À bientôt.
Bonjour, je suis Sylvie et j'appelle de Fabrègues dans l'Hérault. Je viens d'écouter actuellement l'émission sur le ciment et le béton. Et conjointement, ce matin, j'ai entendu Les Petits Bateaux, dans lequel il y avait une personne qui récupérait des coquilles d'huîtres pour faire un matériau qui pourrait servir pour recouvrir les sols, qui est un matériau perméable et solide. Voilà, alors je pense que ça serait peut-être une alternative pour le travail sur les routes, sur les aires de repos, etc., pour justement quelque chose qui serait durable et surtout qui serait moins cher et moins polluant que le béton. Voilà.
Coucou la Terre au Carré, bon, je viens d'écouter votre émission, ne soyez pas désolés, même si vous n'avez pas trop de messages, nous sommes quand même tout de suite de votre émission, que nous apprécions énormément, on vous souhaite plein de courage, et puis oui, si un jour on a des commentaires à vous faire, vous savez bien, nous ne nous empêcherons pas de vous les faire parvenir. Voilà, bonne semaine à vous et merci encore pour votre émission.
Eh bien, merci à vous. Nous voilà rassurés. Et si d'aventure, vous aviez quelque chose à nous dire, amis auditrices et auditeurs, je vous rappelle le numéro du répondeur de la Terre au Carré. 01 56 40 45 45. Les vignes et les vins de nos régions sont en pleine mutation. Le changement climatique a déjà des effets sur la filière viticole française. Les vendanges ont lieu plus tôt, le goût des vins change, la carte des territoires propices à la viticulture se redessine. Tous les vignobles français sont concernés et ça n'est que le début. Quels seront les effets du changement climatique sur nos vignes et nos vins d'ici 2050? Dans quelle mesure les viticulteurs et les vignerons pourront-ils s'adapter? À leur côté, des scientifiques tentent d'anticiper les évolutions à venir et de proposer des solutions pour atténuer les effets du dérèglement climatique sur la filière viticole. Plusieurs leviers d'action sont envisagés. Innovation œnologique, nouveaux cépages, modification des méthodes de culture, déménagement des vignes. Mais tout cela suffira-t-il? La France produira-t-elle toujours des vins de qualité dans 30 ans? Certaines régions viticoles vont-elles perdre du terrain? D'autres vont-elles en gagner? Nous allons en parler avec deux scientifiques, grands spécialistes de ces questions. Nathalie Ola, avec nous en duplex de France Bleu Gironde à Bordeaux. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'UMR Écophysiologie de la vigne à l'INRAE de Bordeaux. Et puis en studio avec nous, Jean-Marc Touzard. Bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez l'UMR Innovation à l'INRAE de Montpellier. Vous avez tous les deux co-dirigé un grand programme de recherche sur 10 ans, très opportunément nommé La Cave, pour adaptation à long terme du changement climatique pour la viticulture et l'œnologie. Les principaux enseignements de ce projet de recherche viennent d'être publiés dans un livre intitulé « Vignes, vins et changement climatique » aux éditions Quae. On vous retrouve dans un instant et les auditeurs peuvent d'ores et déjà vous adresser leurs questions sur la page de la Terre au Carré sur franceinter.fr. Vers 14h30, nous retrouverons Camille Passauvert. Camille Cronier nous emmènera au cœur de l'Amazonie à la découverte de cités perdues. Voilà pour le sommaire de cette émission préparée par Joël Levert, réalisée par Anaïs Reinhardt, avec à la technique à Paris, Alex Olarewaju Otinoua et à Bordeaux, Vincent Thierry.
La Terre au Carré. Daniel Fievé sur France Inter.
On est au milieu d'une parcelle de grenache qui a été très impactée par la sécheresse. En temps normal, l'an dernier, cette vigne avait poussé trois fois plus à peu près.
On veut que la vigne s'installe en profondeur pour qu'elle aille le plus profond possible chercher cette fraîcheur qui lui est nécessaire. Si on n'utilise pas ce mode d'implantation pour créer les vignobles qui vont résister au changement climatique, c'est mort, quoi. C'est foutu. Pour le vignoble, c'est foutu.
Comme on a des yo-yo de température, la chaleur de la journée fait pousser énormément les vignes et la nuit, avec la baisse des températures, ça favorise le développement d'une maladie qui s'appelle l'oïdium et qui met en péril la récolte future.
Aujourd'hui, on commence beaucoup plus tôt les vendanges. Là, cette année, on a commencé le 8 septembre. L'année dernière, on a commencé le 24 août.
Ce qui change par rapport à ça, c'est surtout la régularité de ces années précoces. Avant, c'était une année tous les 20 ans. Aujourd'hui, c'est 9 années sur 10 qui est précoce. On va dire, enfin, en tous les cas, où les vendanges sont plutôt sur la première quinzaine de septembre.
Parole de vignerons et de vigneronnes de différentes régions de France. Jean-Marc Touzard, on l'entend avec ces quelques témoignages. Le changement climatique a déjà des effets très concrets dans nos vignobles.
Oui, comme il a été noté par tous les viticulteurs, ça fait à peu près... Ouais, on les voit depuis les années 80, ces évolutions, mais les viticulteurs en ont pris conscience à partir de la fin des années 90, début des années 2000, et puis les chercheurs avec eux. Mmh. Et puis c'est vraiment à partir de 2010 où la question est montée en puissance. On a vu les dates de vendange avancer, on voyait pas encore d'effets sur les rendements, mais on a vu des effets sur la qualité des vins. Voilà, donc c'est à partir des années 2010 qu'on a vraiment commencé à chercheurs et viticulteurs à s'interroger. C'est pour ça qu'on a lancé ce projet de recherche, la cave.
Nathalie Ola, les vendanges sont plus précoces, mais en fait c'est tout le cycle qui démarre plus tôt, hein, avec des hivers plus doux, plus courts, et ça bourgeonne très tôt les vignes.
Et effectivement, alors depuis les années 2000 et encore récemment, quasiment la température moyenne de chaque année est plus élevée que l'année précédente. Et ça commence dès l'hiver. Hein. Et avec un départ en végétation plus précoce, cette année c'est à peu près 2 semaines. Hein. Donc tout le monde craint les risques de gel de printemps.
Et, oui.
Et ça se poursuit tout au long de la saison avec des vendanges qui sont effectivement déjà 2 à 3 semaines plus tôt que pendant les... en moyenne au siècle dernier.
Parce que Nathalie Ola, le fait que ça bourgeonne très tôt, hein, c'est ce que vous venez de dire, le principal problème c'est que si là-dessus arrive une gelée tardive, ça flingue, hein, pour le dire un peu familièrement, ça flingue la récolte.
Alors ça flingue en partie la récolte, tout dépend à quel moment ça arrive. Si ça arrive très tôt, que la vigne commence juste à bourgeonner, il y aura moins de dégâts, moins d'impact. Et puis si c'est plus tard, quand la plante a commencé vraiment à pousser avec des grands rameaux, de belles feuilles, les grappes déjà visibles, eh bien on peut avoir des dégâts importants parce que la vigne ne sera pas en mesure de récupérer par la suite.
Ouais. Jean-Marc Touzard, au train où vont les choses, parce que là on est avec un réchauffement au niveau de la France qui est de l'ordre, selon les estimations, de 1,7 à 2 degrés depuis 1900. On voit déjà des effets très marqués. Au train où vont les choses, quand pourraient avoir lieu les vendanges en 2050?
Ben, les vendanges, elles ont déjà 3 semaines d'avance à peu près dans la plupart des régions par rapport aux années 80. Et on peut envisager de continuer cette précocité d'une quinzaine de jours. Donc oui, début août, on pourrait envisager même fin juillet, début août, des vendanges en 2050.
Et qu'est-ce que ça change, ça, concrètement, pour le vin, le fait qu'on vendange en août plutôt qu'en septembre?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait que les vendanges soient plus précoces, ça amplifie l'augmentation de température du changement climatique, puisqu'on remonte davantage au cœur de l'été où il fait naturellement plus chaud, même s'il n'y a pas de changement climatique. Donc, pour la période de maturité, qui est importante, au moment qui déclenche la vendange, on n'a pas, par exemple, plus 2 degrés d'augmentation de température qui serait liée au changement climatique, on a plus 2 degrés, plus 1 ou 2 degrés en plus, ça fait plus 4 degrés en tout,
c'est-à-dire
qu'on est plus au cœur de l'été.
Le raisin finit sa maturation sous des températures caniculaires, alors qu'avant c'était sur des températures descendantes.
Exactement, avec sur la période de maturité, ce qui est important, c'est aussi des différences de température fraîche la nuit. Et puis il ne faut pas oublier que les vendangeurs eux-mêmes, ils souffrent de la chaleur. Températures élevées, c'est aussi des risques d'oxydation de la vendange, des départs de fermentation qu'on maîtrise mal. Donc la température plutôt fraîche pendant les vendanges, c'est important.
Nathalie Ola, comment se comporte la vigne face aux sécheresses?
Alors, la vigne est... naturellement assez bien adapté à des étés chauds et secs, hein, mais des sécheresses répétées, comme ce qui se passe actuellement dans le sud de la France, hein, et notamment dans les Pyrénées-Orientales, peuvent avoir des conséquences, d'abord en réduisant la croissance, hein, ça a été dit par un des auditeurs, et puis d'année après année, ça peut réduire les rendements aussi, et ça affecte globalement la rentabilité économique des exploitations.
Nathalie, il y a des régions en France où l'on arrache de la vigne car les terres ne sont plus adaptées à ce type de culture ?
Alors, on n'en est pas là. Je pense qu'on arrache de la vigne pour des raisons économiques, hein, globalement, qui sont peut-être en partie liées au changement climatique, mais pas uniquement. Mais il y a des régions dans lesquelles ça peut devenir de plus en plus difficile de cultiver la vigne pour élaborer des vins de qualité. On pense que la vigne est en mesure de résister à des étés plus secs et plus chauds en tant que plante, mais si on veut des raisins avec une composition précise pour faire des grands vins, eh bien là, il pourrait y avoir des problèmes.
Jean-Marc Touzard, inversement, est-ce qu'il y a des régions en France où des terres viticoles pourraient voir le jour, pourraient émerger?
Oui, il y a déjà un certain nombre de viticulteurs qui se découvrent en Bretagne, en Normandie, dans les régions du nord de la France, et qui testent, qui expérimentent de la vigne. Il y en avait déjà en Bretagne, autour des cloîtres, au Moyen-Âge. Et ces viticulteurs s'organisent, commencent à se développer, se médiatisent, commencent à vendre du vin localement dans les fest-noz du bord de mer en Bretagne. Et ça peut, du point de vue strictement des variables climatiques... Ouais. Ça, on peut envisager, on a fait ces études dans le cadre de la CAB, on peut envisager effectivement le développement de ces vignobles. Par contre, attention, créer un grand vignoble, comme on en connaît, une grande région viticole, ça demande beaucoup d'investissement, il y a aussi des risques importants. Ouais. Donc,
il faut être modéré. On imagine qu'on ne crée pas un terroir et un grand cru.
Mais il y a plein de gens qui expérimentent et c'est très intéressant pour découvrir et pour expérimenter d'autres situations et d'autres produits.
Jean-Marc Touzard, le changement climatique a-t-il un effet sur le goût du vin à proprement parler ?
Oui, alors une des conséquences des déficits hydriques et de ces augmentations de température, c'est une modification des caractéristiques du raisin. Plus de sucre, moins les acides se dégradent plus rapidement, comme l'acide malique, et puis on a des changements dans les processus qui amènent des précurseurs d'arômes. Donc au final, ça fait des vins qui vont avoir plus d'alcool, puisque plus de sucre égale plus d'alcool, avec des risques de moindre acidité, si on ne fait pas attention. Et puis, des changements dans les goûts, par exemple sur les vins rouges, des goûts un peu plus denses, confiturés, qui sont intéressants. C'est pas forcément des vins de mauvaise qualité, mais c'est une certaine qualité qui n'est plus forcément demandée majoritairement par les consommateurs aujourd'hui.
C'est ça. En fait, il faut aussi savoir si le consommateur va suivre ces évolutions organoleptiques, gustatives des vins.
C'est là, comme on voit dans beaucoup d'études récentes, qu'une partie des consommateurs, notamment les jeunes, cherchent des vins plutôt frais, avec des taux d'alcool relativement plus faibles. Ça va un petit peu à l'encontre, à l'inverse des tendances qu'on peut observer en termes d'impact du changement climatique sur la qualité des vins.
Alors, je le disais, ces transformations ont été observées pour une hausse des températures de plus 1,7 degrés en France depuis 1900. Est-ce que, Nathalie Ola, ça permet d'avoir une idée des changements à venir ? À quel point on peut, à partir de ces premières modifications, anticiper ce qui va se passer ?
Alors, on considère que jusqu'à qu'une certaine augmentation de plus de degrés par rapport à ce qui s'est passé sur la fin du XXe siècle, on peut encore s'adapter. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en changeant de pratiques culturales, de cépages, de porte-greffe, mettre en œuvre un certain nombre de précautions par rapport à l'implantation des vignes, eh bien, on peut encore s'adapter. Au-delà, on a n'arrive pas à enrayer ce changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, eh bien, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas trop nous prononcer sur ce qui se passera après.
Ouais. Alors, on va voir, justement, dans la suite de cette émission, les leviers d'action sur lesquels on pourrait jouer pour atténuer les effets du changement climatique, tant que le changement climatique ne s'emballe pas trop, pour donc atténuer les effets du changement climatique sur les vignes et les vins de nos régions dans les décennies à venir. Et puis, vous répondrez bien sûr aux questions des auditeurs qui arrivent pour vous.
Je me sens comme un agneau qui ne dit pas. d'avoir été trop lent à lui offrir son cou, d'avoir pris trop de place, d'avoir trop résisté, d'avoir vu sa robe de rouge se tacher. Cette jungle me doit des mea culpa, la peine à marcher entre Raoul et Yen. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne. Se pose sur ma cuisse. Cette ville me doit des mea culpa, la chaîne à marcher entre les rois qui tuent les reines. Et je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Non, je compte même plus les fois où on m'a traité de chienne. Mais c'est une chienne.
C'était Solane qui chantait Rome sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
Nous descendons sous ce château bordelais d'appellation Fronsac à 15 mètres sous terre. Dans la fraîcheur de cette cave, les vins conservés sont un témoignage précieux du temps qui passe.
Des bouteilles de 1980, 12,5 degrés d'alcool.
Xavier Buffot dirige ce domaine. Il nous déniche trois millésimes différents. Surprise, pour un même château sur un même terroir, plus les années passent, plus le taux d'alcool grimpe dans les bouteilles. 12,5 degrés en 1980, 13,5 degrés 25 ans plus tard, le taux d'alcool culmine à 15 degrés en 2010.
Il faut qu'on adapte notre vignoble, il faut qu'on adapte nos techniques de travail à la vigne et au chai, puisqu'un degré d'alcool trop important dans les vins fait que le vin devient invendable.
Car avec le réchauffement climatique, il y a plus de sucre dans le raisin, et plus il y a de sucre, plus il y a d'alcool dans le vin.
Extrait d'un reportage du journal de France 2, daté déjà de 2017. Hein, ça a certainement encore un peu augmenté depuis. On s'intéresse aux évolutions des vignes et des vins français face au changement climatique avec nos invités Nathalie Ola et Jean-Marc Touzard. Vous avez tous les deux, hein, deux scientifiques à l'INRAE, vous avez tous les deux co-dirigé une vaste étude que je mentionnais en introduction de l'émission, intitulée La Cave, ce vaste programme de recherche. C'est l'acronyme qui désigne ce projet. Adaptation à long terme au changement climatique pour la viticulture et l'œnologie. C'est une spécificité, ce programme de recherche, par rapport aux autres types de cultures en France et dans le monde, où l'on anticipe et où l'on va à ce point dans le fond des choses, de ce qu'il faudrait faire et de ce qui est en train de se passer pour ces cultures, Jean-Marc Touzard.
Oui, on a eu la chance, si on veut, à travers ce programme, d'abord, dès 2010, d'avoir des professionnels, des viticulteurs qui étaient déjà inquiets face aux impacts du changement climatique, parce que la vigne et le vin sont davantage peut-être impactés que d'autres cultures, en qualité, quantité. Et puis on avait des chercheurs aussi qui, de chacun, dans leur côté, dans leur labo, s'interrogeaient. Donc on a réussi à rassembler un peu tout ce monde, une centaine de personnes hein, avec des étudiants, des doctorants, pour répondre. Et ensuite, on a eu la chance de pouvoir travailler pendant 10 ans. Oui, dans la recherche, on a souvent des programmes de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, on a eu la chance de pouvoir reproduire pendant 10 ans, de construire ce réseau scientifique et d'avoir des résultats au final pour faire ce bouquin.
Oui, avec le bouquin qui rassemble toutes les conclusions, qui est d'ailleurs téléchargeable gratuitement hein, sur le site des éditions Quae. On a mis un lien sur la page de la Terre au carré. Et dans la préface du livre, le chercheur qui signe la préface du livre précise que ce sont des plantations qui ont une telle longévité ces vignes, que ça nécessite une anticipation particulière. Aujourd'hui, on plante, dit-il, vous allez me dire si vous êtes d'accord, on plante pour les vins de 2050 à 2070.
Oui, c'est une des raisons pour laquelle les viticulteurs se préoccupent, c'est qu'effectivement, c'est une plante pérenne. Quand on plante aujourd'hui, c'est pour dans 30, 40, 50, voire 60 ans. Mmh. Et donc forcément, on s'interroge sur ce qui va devenir... que va devenir le climat et quels vont être ses impacts.
Alors, vos études avaient aussi pour objet de voir comment s'adapter et atténuer les effets du changement climatique sur les vignes. On va prendre un peu levier d'action par levier d'action. Il y a d'abord l'idée que l'on peut faire évoluer certaines techniques de culture, Nathalie Ola.
Alors oui, très simplement, quand la vigne est plantée, il faut pouvoir aussi s'adapter et à ces étés qui deviennent toujours plus chauds et plus secs. Mm-hmm. Donc il y a des questions de date de taille, il y a des questions de pratiques de culture du sol, des vignobles.
Mm-hmm. Concrètement, pour le sol, ça veut dire on peut travailler le sol avec du paillage, favoriser l'enherbement pour garder l'eau. Ce sont ce genre de choses très concrètes.
Oui, ce sont ce genre de choses très concrètes. Alors, l'enherbement à gérer en fonction des conditions de l'été, mais ça permet aussi de favoriser tout ce qui est biodiversité et vie dans les sols. Et c'est certainement un facteur de ce qu'on appelle la résilience des vignobles face au changement climatique. Mmh. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être mobilisées tout de suite sur des vignobles en place.
La façon de tailler les vignes aussi a son importance et pourrait évoluer pour tenir compte du changement climatique, Nathalie Ola ?
Alors, il y a des choses par rapport à la taille, ce qu'on appelle de formation, c'est-à-dire quand les vignes sont jeunes et puis qu'on va les former pour qu'elles produisent. Donc, la hauteur du tronc peut être un peu ajustée et remontée pour essayer de lisser les écarts thermiques, hein, s'éloigner un peu du sol pour être un peu plus au frais. Mmh. Et ça permet aussi de réduire les risques de gel de printemps. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a des... ensuite, quand on réimplante un vignoble, hein, il y a certainement la densité de plantation, c'est-à-dire le nombre de pieds de vigne qu'on met à l'hectare qui peut être modifié.
On espace les pieds pour qu'ils aient plus d'eau au mètre carré chacun, en quelque sorte.
En quelque sorte, voilà. Et puis pour que globalement, il y ait moins d'eau consommée sur la totalité de la surface. Et puis on peut envisager aussi des modes de palissage. Alors peut-être à port où on laisse la végétation un peu se développer plus librement parce que ça permet de faire de l'ombre sur les grappes. La question de la température. Et son effet sur la composition des raisins est importante. Mmh. Donc, ces questions d'ombrage, hein, alors soit naturellement par le mode de conduite, soit avec des filets d'ombrage, peuvent être envisagées.
Mmh. Je note que vous ne me parlez pas spontanément d'irrigation. C'est vrai qu'en ce moment, l'eau, ça devient aussi un des gros problèmes des années à venir. Ça n'est pas souhaitable de déverser des quantités d'eau pour irriguer ces cultures, Nathalie Ola ?
Alors, on parle de cette technique avec beaucoup de précautions, ouais, hein, parce que, d'une part, la vigne est quand même une plante d'origine méditerranéenne et du Proche et Moyen-Orient, donc assez bien adaptée à ces conditions de sécheresse. Donc, même s'il faut beaucoup d'eau pour faire un certain niveau de rendement, il en faut moins que dans d'autres cultures. Mmh. Donc, si on peut éviter de mobiliser de l'eau extérieure pour maintenir une culture de la vigne, eh bien c'est très bien. Donc, en essayant de favoriser, comme il était dit, hein, un enracinement profond pour que la vigne puisse puiser l'eau, ça sera très bien. Mmh. Et puis, c'est toujours un risque de promouvoir les techniques d'irrigation parce que Quand la vigne va avoir besoin d'eau, c'est souvent des étés très secs, hein, mmh. où l'eau ne sera pas forcément disponible. Hein.
Oui.
Par exemple, en 2022, les viticulteurs de la vallée du Rhône auraient bien aimé irriguer, mais il n'y avait pas d'eau. Mmh. Donc, c'est peut-être une promesse, une mauvaise promesse qu'on pourrait leur faire en leur disant « oui, oui, il faut irriguer
mmh. ». Jean-Marc Touzard, vous envisagez aussi, parmi les leviers d'action, de déplacer des vignes, mais sur des terroirs. Quand on est en Piémont, par exemple, on peut monter un peu en altitude. Ça peut être une solution, ça ?
Oui, c'est une solution qui est déjà envisagée, pas par les chercheurs, mais par les, ouais. les viticulteurs eux-mêmes. Non, non, ouais. non. Mais voilà, on a fait des études pour conforter un peu, étudier ça. Donc, effectivement, la première chose, on peut monter en altitude pour gagner en fraîcheur. Hein. Mm-hmm. Donc, on le voit à Banyuls, par exemple, on a un doctorant qui a fait une étude vraiment très, très poussée de simulation d'évolution possible des caractéristiques des raisins sur Banyuls, en voyant qu'il y avait un risque de perte d'acidité sur les grenaches en bas. Et donc, il fallait monter en altitude. Mais on voit ça sur les terrasses du Larzac, on voit ça dans les Alpes, dans les contreforts des Alpes, en vallée du Rhône, partout. Mmh. Et puis, l'autre possibilité, c'est de monter en altitude, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est aller vers le nord, là où il y a aussi, il fait plus frais.
Oui, c'est ça, monter, changer de région. Hein, on va s'installer plus au nord de la France.
Et sur les terrasses du Larzac, par exemple, on voit des terroirs qui avaient été abandonnés il y a 30, 40, 50, 60 ans, même peut-être fin 19e siècle, parce que le raisin n'arrivait pas à maturité, maintenant deviennent tout à fait intéressants.
Mmh. Il y a aussi cette piste que vous envisagez, que vous travaillez hein, déjà de façon très concrète, de planter de nouveaux cépages. Jean-Marc Touzard.
Ah oui, c'est souvent... Donc c'est la piste à laquelle pensent d'abord, en premier lieu, souvent les viticulteurs, et sur lesquelles il y a déjà pas mal de travaux engagés dans toutes les régions de vignobles, mmh. avec des tests de variétés. Alors soit des variétés qui ont pu être un peu oubliées, qui étaient là, mais beaucoup, surtout des variétés venant d'autres régions, justement des régions plus sèches ou plus chaudes. Mmh. Donc, Nathalie pourra en parler, à Bordeaux, ils ont tout un dispositif qui a amené à sélectionner, par exemple, envisager la plantation de cépages portugais dans le cahier des charges, pour le mettre dans le cahier des charges des Bordeaux. En Languedoc, on s'intéresse à des cépages grecs, par exemple. En Vallée du Rhône, à des cépages bordelais et languedociens.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Nathalie Ola, on peut aller chercher des cépages dans d'autres régions de France et au-delà, dans d'autres pays méditerranéens. Vous faites aussi des croisements pour trouver de nouvelles variétés ?
Alors, à Bordeaux, nous sommes beaucoup intéressés justement à cette diversité déjà existante, hein, parce que l'espèce Vitis vinifera, dont on parlait au tout début, est riche de cette diversité. Donc, aller chercher dans les autres régions françaises, mais aussi dans les autres régions viticoles du monde, plus au sud, plus à l'est, des cépages qui auraient montré leur potentialité pour élaborer des grands vins. Et depuis 2009, on étudie ces cépages et on a pu déjà proposer une shortlist pour un certain nombre d'appellations bordelaises pour qu'ils expérimentent des cépages effectivement portugais, mais aussi des obtentions qui avaient été faites il y a longtemps, une trentaine d'années auparavant, par mes prédécesseurs, qui n'avaient pas forcément trouvé un grand intérêt et qui aujourd'hui peuvent présenter un certain potentiel.
Ouais.
Actuellement, nous ne faisons pas de création variétale pour des cépages à Bordeaux, mais il y a des programmes de recherche qui essaient de combiner la résistance aux maladies pour éviter de traiter les vignes avec des produits phytosanitaires et des bonnes caractéristiques vis-à-vis du changement climatique.
Alors on va voir dans la suite de cette émission, parce que aller chercher de nouveaux cépages ailleurs, on se dit que ça doit changer aussi un peu l'assemblage des vins, peut-être leur goût, peut-être remettre aussi en question les appellations et la réglementation autour de tous ces vins. Nous allons en parler dans la suite de l'émission, mais à 14h32, il est temps de retrouver Camille Cronier.
France Inter, la Terre au carré.
Camille passe au vert et nous emmène à l'aventure.
Nous allons faire un voyage grâce à une découverte extraordinaire aujourd'hui. Elle a fait la une du magazine Science jeudi, qui titre Lost City, la cité perdue. Une sorte de mégapole des temps anciens, entre moins 500 et plus 300 ou plus 600, donc 300 ou 600 de notre ère, qui se cachait jusque-là sous l'ultra-dense forêt amazonienne. Et que l'équipe de l'archéologue Steven Rostin, qui a fait ses toutes premières fouilles et repérages là-bas dans la vallée de Lupano en Équateur il y a 28 ans, c'était en 1996, vient donc de révéler, après analyse des données faites au LIDAR, une technique de télédétection laser qui passe à travers la canopée, un peu comme une radiographie du sol, mais sans la couverture végétale. Et là...
Ah là, j'ai été stupéfait parce que j'ai été vraiment ahuri, parce que tout ce que j'avais vu partiellement ou de façon très précise au sol. C'est emboîté dans une cartographie globale et j'ai eu un vrai panorama de ce paysage parce que ce n'est pas quelques sites qui ont été travaillés, c'est toute la vallée qui a été sculptée.
300 km² recréés numériquement sur les 600 passés au radar et certainement beaucoup plus à découvrir encore. Les images sont fascinantes. On voit des routes parallèles et perpendiculaires, un peu comme à New York, creusées dans la terre, hein, ils n'utilisaient pas de pierre, connectées comme une gigantesque toile d'araignée, des monticules, des plateformes. Fermez les yeux et imaginez.
L'élément de base architectural de la vallée Lupano, c'est la place carrée, basse, plate, qui est généralement entourée de plateformes périphériques, un minimum de 4, parfois 6, sur lesquelles certaines de ces plateformes supportent des maisons. Le long de ces plateformes partent des chemins, alors certains descendent à la rivière, d'autres connectent d'autres groupe de monticules, et donc tous ces ensembles, ces complexes, comme on les appelle, constituent une cité qui, parfois, est centralisée par un axe d'une rue beaucoup plus profonde que les autres, parfaitement droite, et qui constitue un peu la colonne vertébrale de la cité, aux extrémités desquelles il y a des très grands monticules, de fonction probablement cérémonielle, en tout cas collective, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de long et 8-10 mètres de hauteur.
Une quinzaine de cités sont apparues, dont 5 très grandes. On pourrait dire il y a 10 villages et 5 villes. Et ce n'est pas tout. L'étude de Steven Rostin parle de cités-jardins parce que tous les espaces entre les quelques 6000 monticules étaient cultivés avec des systèmes de drainage, un peu comme des rigoles tout autour.
J'ai tendance à dire qu'en Europe, parfois, certains naissent avec une cuillère en argent dans la bouche. En Amazonie, tous les autochtones naissent avec une pelle dans la main. Ce sont des terrassés hors pair, ils savent exactement comment modifier la morphologie de leur territoire pour le rendre utile à leurs besoins divers et variés.
Des terrassiers donc, mais pas que.
Il fallait quand même des ingénieurs pour tracer les routes, des géomètres pour diriger les travaux de terrassement, mais pendant ce temps-là, il fallait nourrir, donc il y avait des paysans. Il fallait bien avoir quelques protéines, mais les mammifères ont sans doute très vite été massacrés. Et donc, il restait la pêche dans la rivière, mais là, il fallait des pêcheurs parce qu'il faut deux bonnes heures pour descendre les 100 mètres de falaise entre les sites et la rivière. Il fallait probablement une autorité, peut-être des prêtres aussi. On faut imaginer une structure quand même un peu complexe de la société, mais on va aussi avancer prudemment là-dessus, mais on aura des réponses.
Ce n'est presque que le début d'une toute nouvelle histoire, celle de cette zone urbaine désormais la plus grande et la plus ancienne jamais découverte en Amazonie, qui prouve, pour le plus grand bonheur de l'archéologue, lancé sur la piste au départ par l'anthropologue Philippe Descola, que l'Amazonie, justement, ne se résume pas qu'à la faune et à la flore. Elle aussi, elle a une diversité ethnique et humaine.
Il y a eu des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont côtoyé des sociétés citadines.
Disparues là-bas il y a environ 1500 ans, qu'a-t-il pu se passer pour ces milliers de personnes dont on ne peut encore estimer la population précisément? Voilà les pistes, notamment celle du volcan Sangay au bout de la vallée.
Sur le sommet de mes niveaux d'occupation, j'avais une couche noire qu'un pédologue avait interprétée comme une couche de cendres volcaniques. Donc j'imaginais un méga blast, une méga éruption qui avait chassé tout le monde. On a fait des prélèvements et des datations de ces couches noires et on a une diversité de dates qui ne plaide pas en faveur d'un seul mégablast. Et donc, ça affaiblit un peu cette interprétation de la catastrophe volcanique. L'autre explication qu'on pourrait aussi penser, c'est que cette civilisation a tellement grossi qu'elle s'est écroulée, comme ça arrive. Regardez, c'est arrivé à Rome, c'est arrivé à l'Égypte et c'est en train de nous arriver. Au bout d'un moment, les sociétés implosent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 600, il n'y a plus aucune date culturelle. Jusqu'à 800, il n'y a plus personne dans la vallée, ou très peu de monde.
Il reste des années de recherche. En tout cas, l'archéologue ne l'avait pas vraiment vu venir.
C'est l'ampleur du phénomène que je n'avais pas soupçonné à ce point-là. On arrive à tirer des enseignements, des traces d'activités passées assez stupéfiantes. Je ne m'attendais pas à ce que le paysage soit si bavard.
Voilà, écoutez le paysage pour qu'émerge donc un Eldorado scientifique et un peu magique aussi.
Et c'était une rediffusion de la chronique de Camille Cronier datée du 16 janvier dernier. Toutes les chroniques Camille Passauvert sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France. Nous poursuivons notre discussion sur les évolutions de nos vignes et de nos vins face au changement climatique avec nos invités Nathalie Ola et Jean-Marc Touzard dans la suite de La Terre au Carré.
Well, I got to take a break from it all, 'cause the wind and the wilderness call, and I just need some peace from the storms. I got to take a break from it all, and I got to take a break for a while. Well, there ain't another human for 100 miles. I hate being enclosed by the walls, and I got to take a break from it all. I'll be dancing on diamonds, I'll be skating on glass, I'll be chopping up wood, an old AM radio is all that I've got. It just plays Hank Williams and some bad honky-tonk, 'cause I got to take a break from it all. Small town chatter and the know-it-alls, to a place where no one can call, and I won't hear the sirens or the maddening crowds, just the bark of a fox and the hoot of an owl. I ain't got no connections or a satellite phone, avoiding the pictures and the people back home, and I just got to break free from it all. You see, it can't last forever. I'll be diving back in. It's good for my soul, yes, it's saving my skin, 'cause I love the laughter, the women, the wine. I just got to break free from it all.
C'était Dreamy Skies des Rolling Stones sur France Inter. Et merci à Thierry Dupin qui signe notre programmation musicale.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Daniel Fievé sur France Inter.
On a vu le potentiel alcoolique monter de 12, 13, 14% d'alcool avec une difficulté pour atteindre la maturité phénolique, c'est-à-dire cet équilibre qui fait l'excellence des grands vins. Et on a voulu absolument retrouver ça. Comme les cépages classiques comme le grenache ou le macabeu m'intéressaient moins de par leur potentiel d'expression aromatique, on est carrément allé dans le sud, on a demandé les autorisations, on a importé ces cépages, qui fait que vous avez là donc le premier Verdejo implanté en France et un des rares Albarino.
Claude Vialade, vigneronne, interrogé par l'AFP en juillet 2023, et qui répond en quelque sorte à Alan qui nous écrit cette question. Est-ce qu'à un moment, certaines régions devront changer de cépage? Et puis Alan nous dit, est-ce que je peux en profiter pour faire un bisou à mon fils, œnologue du côté de Châteauneuf-du-Pape, où la chaleur perturbe également les vignes? Voilà qui est fait, Alan, on a transmis le message. Nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Ola et de Jean-Marc Touzard, scientifique à l'INRAE, dont les recherches portent justement sur l'évolution et l'adaptation des vignes et des vins face au changement climatique. Et Jean-Marc Touzard, on l'entendait à l'instant avec l'extrait de ce reportage, pour faire face au changement climatique, certains vignerons, ça y est, ils sont allés, ont planté des cépages qui viennent là, en l'occurrence du Portugal ou parfois d'ailleurs. Mais dans quelle proportion le font-ils, Jean-Marc Touzard?
Alors, ça va dépendre des régions.
Oui.
Vous avez des régions comme Bourgogne, Beaujolais, où vous avez un ou deux cépages emblématiques, Pinot Noir, le Gamay, par exemple, où on reste dans cette gamme. Par contre, dans des régions comme le Languedoc, on a beaucoup plus de diversité déjà possible de cépages. Et là, on a, je vais dire, dans chaque village aujourd'hui, vous avez au moins un viticulteur qui est en train de tester, alors sur quelques arts, mais de tester de nouveaux cépages. Encore une fois, qui avaient été un peu oubliés et qui peuvent provenir plus ou moins de la région, mais beaucoup de cépages venus d'autres régions. Donc c'est extrêmement intéressant parce que pour les chercheurs, c'est énormément de lieux d'expérimentation qu'on va chercher à enquêter, à connecter. Et on a pour ça des démarches, des réseaux participatifs qui nous renseignent beaucoup plus rapidement sur l'adaptation de ces cépages.
Si je vous suis bien, vous suivez, vous n'êtes pas que à la pointe de ce qui se fait, vous accompagnez les viticulteurs et vous faites votre miel de ces expérimentations qu'ils font sans vous avoir vraiment attendu pour les faire.
Oui. D'abord, il y a l'urgence climatique qui suppose d'aller vite et d'échanger au mieux entre nous tous.
Ouais.
Et puis effectivement, mais la viticulture, c'est aussi un ensemble professionnel où il y a beaucoup de créativité. Il faut se distinguer par des cépages différents, des vins différents. Donc il y a beaucoup de créativité, beaucoup de diversité.
Ouais.
Et ça, c'est une richesse pour s'adapter en tant que tel.
Nathalie Ola, est-ce que ça veut dire que les cépages qui nous sont plus familiers, comme le Chasselas, le Pinot Noir ou le Chardonnay, sont appelés à perdre du terrain, à disparaître ou à changer de site?
Alors, il faut savoir que l'encépagement a toujours changé. Par exemple, à Bordeaux, il y avait très peu de Merlot au début du XXe siècle. Et puis, sa proportion a augmenté. Et puis, aujourd'hui, c'est un des cépages les plus plantés au monde. Donc, cet encépagement, il a toujours changé. Tout à l'heure, l'auditrice parlait de Grenache. Ces Grenaches, ils viennent aussi d'Espagne. Ils sont montés vers le nord, au Moyen-Âge. Et puis, peut-être, aujourd'hui, ils vont être remplacés petit à petit. Mmh. Alors aussi, tout dépend des assemblages. Si c'est des vins d'assemblage, on peut introduire une petite proportion d'un nouveau cépage et essayer de conserver l'équilibre dans les vins finis. Mmh. Pour des régions et des cépages majoritaires uniques comme le Pinot, le Chardonnay, c'est plus compliqué. Mmh. Alors à court et moyen terme, on peut aussi utiliser la diversité qu'on dit clonale au sein du cépage. Il y a une diversité qui a peut-être pas été suffisamment exploré dans le contexte du changement climatique et qui pourra apporter certainement un levier d'adaptation au moins sur les premières années.
Ouais. C'est-à-dire au sein d'un même cépage, trouver les variétés ou les sortes qui sont les plus résistantes et les plus à même de s'adapter aux nouvelles conditions, si je vous suis bien.
Exactement, voilà.
Ça implique une modification de la réglementation, cette histoire, Jean-Marc Touzard, parce que on se dit, si on importe de nouveaux types de cépages, on crée de nouveaux assemblages, que deviennent les appellations d'origine protégée ou contrôlée dans tout ça?
Oui, ça suppose des évolutions du cahier des charges, de la réglementation qui autorise, par exemple, à mettre de nouveaux cépages dans ces cahiers des charges.
Ouais.
C'est ce qui est déjà engagé. Il faut bien voir que on a une vision des vins d'appellation comme étant très conservatrices, les choses étant codifiés et à vitam aeternam. Non.
Ils peuvent évoluer.
Alors, c'est aussi lié à la prise de conscience que j'évoquais des viticulteurs. Je pense aussi à des influences de la recherche montrant qu'il y avait des possibilités. Et donc, comme le disait Nathalie, maintenant, dans les cahiers des charges, on peut introduire, alors jusqu'à 10% du volume pour l'instant en assemblage, des variétés à des fins d'adaptation au changement climatique, alors qui sont présélectionnées, si on veut, par le syndicat d'appellation. Mais c'est des choses maintenant qui sont possible.
Mais ça va faire évoluer le goût des vins, d'amener de nouveaux cépages. Ça ne sera pas sans conséquence.
Oui, alors c'est pour ça que c'est fait de manière adaptative. Mmh. C'est pour ça qu'il y a de l'expérimentation pour voir si un cépage intéressant pour s'adapter au changement climatique ne va pas trop modifier forcément le profil actuel recherché.
Alors, quel goût auront les vins français en 2050? Les grands vins de Bordeaux, par exemple, tentative de réponse d'un spécialiste du vin dans cet extrait de reportage.
Pascal Chatonnet est œnologue. Il a créé ce que pourrait être le Bordeaux de 2050 en mélangeant plusieurs vins rouges produits en Tunisie, dans le sud de l'Espagne et au Maroc.
On a choisi des vins provenant de zones climatiques qui ont d'ores et déjà le climat qui pourrait être celui de 2050 à Bordeaux.
Et le résultat est étonnant.
On a un vin qui est très doux, très, très soyeux, presque sucré. Hein ? C'est un profil très différent du Bordeaux d'aujourd'hui.
Le Bordeaux risque-t-il donc de perdre son âme ? Nous avons demandé à notre viticulteur de déguster ce vin en avant-première. Verdict.
C'est quelque chose de très gourmand, friand, très, très commercial. Au nez, à l'aveugle, je pense que ça peut être partout.
Dominique Hébrard ne semble pas convaincu du tout.
Mais là, oui, c'est pas vraiment Bordeaux. Non.
Pour cet œnologue, les viticulteurs bordelais devront se résoudre à terme à délaisser le Merlot pour cultiver de nouveaux cépages, comme la Syrah, plus résistante à la chaleur.
Extrait d'un reportage donc de TF1 daté de décembre 2022, à faire de nouveaux assemblages pour essayer de simuler ce que seront les grands Bordeaux en 2050. Ça a du sens, ce genre de simulation, selon vous, Jean-Marc Touzard?
Oui, alors dans le cadre de la cave, on a fait de l'économie expérimentale, justement à Bordeaux,
ouais. Hein,
avec Éric Giraud-Héroux, un collègue, pour tester justement comment réagissaient dès aujourd'hui les consommateurs face à des vins qu'on pense être ceux du changement climatique, présélectionnés, puis des Bordeaux actuels. Et les consommateurs sont pas désintéressés. Ils trouvent les vins du changement climatique intéressants, mais préfèrent quand même revenir au vin actuel. Mmh. Et donc ça, c'est important de voir ça. Et puis sinon, de mon point de vue, le changement climatique, c'est aussi des risques importants. Et donc, on va vers une diversification de l'encépagement. Et diversifier son encépagement pour un viticulteur, c'est aussi faire face, avec des variétés plus ou moins tardives, à des variétés qui peuvent avoir des caractéristiques différentes, face à la sécheresse. Voilà, c'est aussi faire face aux risques climatiques et aux changements climatiques. Mmh. Donc on va vers des assemblages aussi. Mais l'enjeu, c'est de faire évoluer doucement, sans doute, pas trop brutalement. Sauf dans des régions comme le Languedoc, on a plus l'habitude d'avoir des innovations un petit peu, parfois... Ouais. Flashy, quoi.
Nathalie Ola, je ne peux que vous faire réagir également, parce que vous êtes de Bordeaux. Alors, l'idée que les vins de Bordeaux perdraient un peu leur âme, parce que c'est un peu ce qu'il y a dans cette simulation, dans ce reportage, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, si on ne fait rien, les vins vont, la composition des vins va évoluer de toute façon. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est effectivement qu'il faut arriver à. Alors, à Bordeaux, c'est un vin d'assemblage, donc c'est un atout parce que on peut les faire évoluer. Petit à petit, hein, en modifiant les proportions d'assemblage. Et c'était tout l'objet de l'expérimentation qu'on a menée depuis 2009 à Bordeaux, c'est-à-dire de sélectionner des cépages étrangers, mais qui ne modifieraient pas énormément le type, la typicité des vins de Bordeaux. Il y a des études, il y a maintenant un doctorant qui fait un travail chez nous pour essayer de regrouper les cépages par type, pour essayer de... Et donc ça, c'est aussi important pour peut-être modifier l'encépagement, trouver des cépages qui soient plus résistants aux conditions futures, mais qui ne modifient pas de manière très importante le type des vins. Mmh. Et puis après, c'est la question des consommateurs, hein, comment les consommateurs vont modifier leur goût, ce qu'ils vont apprécier d'ici 20 ou 30 ans, c'est compliqué aussi à anticiper.
Jean-Marc Touzard, il y a un aspect, un levier d'action qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la façon de faire évoluer les pratiques de vinification. Là aussi, on peut, d'une certaine manière, faire en sorte que le taux d'alcool ne grimpe pas trop haut. C'est des choses auxquelles vous avez travaillé.
Oui, bien sûr, c'est tout un domaine d'innovation. On va parler plutôt d'innovation corrective, ouais. Hein, c'est-à-dire on va essayer de corriger après coup, après vendange, hein, après vinification même des caractéristiques du vin, par des alcoolisations, en contrôlant contrôlant l'acidité, en gérant aussi à travers les levures, on peut aussi on peut éviter qu'il y ait un peu trop d'alcool qui soit élaboré, etc. Et alors c'est important à tel point que par exemple les IGP, les vins indication géographique protégée, viennent d'obtenir, je crois il y a quelques jours, la possibilité de produire des vins désalcoolisés jusqu'à 8,5 degrés. Mmh. Donc la possibilité d'ouvrir des gammes de vins désalcoolisés, aussi pour répondre à une demande, comme disait Nathalie, de consommateurs qui recherchent en ce moment des vins peut-être moins alcoolisés, plus frais, etc.
Mais les techniques employées sont d'ores et déjà autorisées, ou là encore il va falloir...
Non, toutes ces techniques sont pour la plupart autorisées, il peut y avoir de nouvelles techniques, mais tout l'enjeu dans la viticulture, c'est de pas non plus trop artificialiser les processus pour qu'on reste sur un produit issu du raisin, un produit qui reste agricole quelque part.
Allez, suite et fin de notre discussion dans un instant avec vous, Jean Touzard, Jean-Marc Touzard et Nathalie Ola. C'était Anna Karina qui chantait « Sous le soleil », exactement. Et nous avons plusieurs messages de viticulteurs qui nous écrivent. Michael nous dit juste un petit témoignage du milieu des vignes du Muscadet. Les gels printaniers mettent fortement à mal nos exploitations. Michel qui nous rappelle les vendanges de l'an dernier. Vendanges dans le Haut-Rhin le 23 août 2023. Et puis Sophie qui nous écrit « Viticultrice bio à Blaye. Je vous écoute actuellement en direct depuis les vignes. La plante a plus de 15 jours d'avance par rapport à l'année dernière. Le problème étant que le gel peut intervenir encore jusqu'à mi-mai. En 2017, le gel avait eu lieu le 27 avril. Mais tailler plus tard peut aussi fatiguer la plante. Donc nous devons continuer à faire des compromis en croisant les doigts, nous dit Sophie. Jean-Marc Touzard, ils sont comment? Dans quel état d'esprit ces viticulteurs, ces vignerons face à ces bouleversements où voilà, il faut sans arrêt faire des compromis et croiser les doigts, comme nous dit Sophie?
Les viticulteurs, ils sont à la fois quand même un peu angoissés, pas que à cause du changement climatique, aussi par les évolutions économiques. Il y a quand même, sur les vins rouges, une baisse de la demande marquée, etc. Et puis, mais en même temps, ils sont créatifs, il y a beaucoup de sortes de viticulteurs. Mmh. Et c'est vraiment une profession dans laquelle vous avez beaucoup d'imagination. Donc voilà, les témoignages que vous avez, c'est des gens qui expérimentent, qui se posent des questions en termes de compromis, de pratiques, de cépages. Donc ça, encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est une diversité favorable à l'adaptation.
Nathalie Ola, la France sera-t-elle encore un grand producteur de vin en 2050 et puis aller en 2100? Je vous avais moins d'une minute pour répondre.
Alors oui, je pense qu'en 2050, il n'y a pas de doute, la France sera un grand pays viticole. Hein. Peut-être que même le potentiel en termes de surface peut augmenter. Je ne me prononcerai pas sur 2100.
Oui, c'est-à-dire que oui, il y a quand même une incertitude. On peut imaginer que certains pays comme la Belgique, la Grande-Bretagne, c'est déjà un peu le cas, deviennent les grands producteurs de demain, de vin.
Alors, ils deviendront des producteurs. Hein. Je pense qu'il faut raison garder de toute manière. Il y a toute l'histoire de la viticulture, de la tradition viticole depuis des siècles en France. Et ça fait partie aussi du potentiel d'élaboration de grands vins.
Merci Nathalie Ola. Les grands enseignements du projet de recherche La Cave, mené sur 10 ans, que vous avez co-dirigé, ont été publié chez Quae. L'ouvrage s'intitule « Vigne, vin et changement climatique ». Il s'adresse aux professionnels de la filière, mais je signale qu'il est téléchargeable gratuitement sur le site des éditions Quae, en lien sur la page de la Terre au Carré. Un grand merci Jean-Marc Touzard et Nathalie Ola.
Merci.
Merci.